Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le directeur général d'Enfants du Mékong, Guillaume Daboville.
Bonjour Adélaïde.
Bonjour. Pour nous parler de cette année un petit peu spéciale qui s'est passée pour nous tous et aussi, bien sûr, spécialement pour nos amis asiatiques. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'Enfants du Mékong a pu, dans ce contexte si particulier de pandémie, agir auprès des familles les plus pauvres?
Alors, la situation de pauvreté s'est pas améliorée. Malheureusement aggravée. Hein. Et le premier levier de notre action, ça a été de maintenir nos actions. La clé, c'est le parrainage. Distribuer le parrainage, adapter l'utilisation de l'argent du parrainage à des problématiques plus sociales. Aujourd'hui, 98% de nos programmes fonctionnent sans aucun problème. Mais aussi d'aider ceux qui souffrent en plus, parce que c'est notre devoir. Comme par exemple, on a distribué en gros l'équivalent de 15 ans de riz d'Enfants du Mékong en 2 mois pour plus de 10 000 familles, dont 90%, on ne les connaissait pas avant le Covid. S'il faut qu'on fasse plus, on fera plus. Comment on a pu agir? Écoutez, depuis 60 ans, on s'appuie sur 2 principes fondamentaux et on ne va pas les changer parce qu'ils fonctionnent merveilleusement bien. Le premier principe, c'est que l'enfant pauvre est notre maître. Fort de ça, on est là pour répondre aux besoins de ceux qui nous appellent. On arrive curieusement toujours à s'adapter aux appels de ceux qui nous appellent à l'aide, quelles que soient les situations. D'un typhon, de migration politique, d'un tsunami, d'une pandémie sanitaire ou plus, on arrive toujours à s'adapter aux appels du pauvre. Principe numéro 2, Enfants du Mékong, c'est une pyramide à l'envers. Ça veut rien dire, ça. Je vais vous expliquer. Ça veut dire qu'en fait, on s'appuie sur notre réseau formidable de nos 1000 responsables de programmes locaux. Ils sont incroyables. C'est eux qui commandent. C'est eux qui nous appellent à l'aide. Nous, on est là pour répondre aux besoins du terrain. Or, eux, ils bossent, mais comme des dingues. Ils sont tous bénévoles. On a mis l'asiatique, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sans eux. Je vous prends l'exemple d'ATLN à Cebu, d'Assumpta à Sisson en Birmanie. Je prends l'exemple de Martin, notre cher Martin au Cambodge. On a plein d'équipes qui aujourd'hui, même si on n'a pas pu envoyer tous nos bambous en Asie, on en a au Cambodge et aux Philippines, qui bossent d'arrache-pied et qui nous permettent de fonctionner.
Bien sûr, donc on a eu la chance, nous, de rester en contact justement avec ces responsables locaux et d'avoir des nouvelles des familles et des filleuls qu'on aide. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette période justement? Quel est l'impact que ça a eu en Asie, cette période?
D'abord, rappelons que l'Asie a quand même une force de résilience et de joie extraordinaire, on essaie de vous le dire à chaque fois, mais c'est incroyable le sens de la communauté où il y a une entraide qui est incroyable. Parfois, même si c'est dramatique aussi pour eux, il y en a qui nous disaient c'est une crise de plus. Incroyable, toujours cette capacité à vouloir se relever malgré les épreuves. Pourtant, même si notre devoir, vous savez, chez Enfants du Mékong, c'est la joie et l'espérance, il faut être en vérité, la situation dans certains pays est franchement dramatique. Je vais vous prendre 2 exemples très concrets. Aux Philippines, on est passé de moins de 10% de chômage à la moitié de la population qui est sans emploi. 11e mois de confinement, un taux de suicide 50 fois plus important que le nombre de morts du Covid dans le pays. C'est quand même une situation hyper inquiétante. En Birmanie, une année blanche scolaire, c'est-à-dire que tout le monde perd 1 an, imaginez pour les plus pauvres, un endettement énorme des familles avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 50%. Mais comment pouvons-nous faire pour survivre face à ça? Des pertes d'emploi, des cessations de l'école, des ruptures de liens, du décrochage scolaire, des dépenses, drogue, alcool, écran. Voilà, et dans des pays, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a pas de sécurité sociale, hein. C'est comme en France. Et l'oisiveté et le manque d'incarnation ne sont jamais les bons amis. Donc il faut se tourner vers l'espérance. Nous, ce qu'on voit, c'est à quel point le parrainage a un impact immense en ce moment. Il dit à un enfant qui est seul, qui a plus de boulot, qui a peut-être faim, et il dit au fin fond du bout du monde, il y a quelqu'un qui te dit tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est incroyable à quel point ce levier s'adapte à toutes les situations et est prophétique. Voilà, c'est notre façon de se tourner vers l'espérance en rejoignant la résilience de l'Asie. Dernier sujet que je voulais aborder, c'est peut-être de dire que nos filleuls ressentent les lettres qu'ils reçoivent, même si évidemment on a eu des problèmes de correspondance, vous voyez bien la saturation du e-commerce, parfois des services publics qui sont confinés, hein, pardon d'être un peu rude, en Asie mais aussi un peu en France parfois. Le parrainage est pour certains le seul lien qui peut les maintenir à la vie.
Et nos volontaires bambou en attestent tous les ans, chaque année, et sont même étonnés par justement cette volonté que les filleuls ont pour s'en sortir. Justement, c'était compliqué d'en envoyer des volontaires cette année. Comment est-ce que Enfants du Mékong a fait pour travailler directement avec les responsables locaux n'ayant pas de bambou sur le terrain?
Oh là là, ça c'était balèze. Et ça l'est toujours. Alors d'abord, il faut quand même noter que ça fait depuis le 16 mars ou depuis début 2020, on parle de cette pandémie. En 2020, on a eu des bambous pendant 9 mois en Asie. Il n'y a pas eu tant de ruptures avec les bambous. Ils ont été extraordinairement courageux parce qu'on en a confiné la plupart dans des grandes villes pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Et ils ont maintenu ce lien d'amitié comme des poilus dans une tranchée, de manière assez extraordinaire. Je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils ont tenu et la règle dans les épreuves, c'est d'être fidèle, c'est pas de réussir. Et la force de l'amitié, ils l'ont vu, les Asiatiques. Même confinés dans des grandes villes asiatiques, ils restaient sur le même fuseau horaire. Ils ont continué de bosser avec une confiance et une ténacité complètement dingue. La deuxième chose, c'est qu'on a pu envoyer, grâce à l'énergie des équipes, merci Adrien et Véronique ici, on a pu envoyer 20% des bambous. D'abord, on a des bambous qui sont restés. On en a encore 2 aux Philippines et je les remercie. Et on a pu envoyer 100% des bambous au Cambodge. Donc, et je crois que prochainement, on va réussir par un trou de mulot diplomatique à en envoyer aux Philippines. Donc, il faut être aussi dans cette espérance et cette cette résilience. Maintenant, pour les responsables locaux, ils ont une résilience énorme, un sens communautaire énorme. Ils ont réussi hein, à s'adapter, eux. Alors nous, on a réussi à s'adapter grâce à eux. Pourquoi ? Bah, sans Bambou, on a repris la relation en direct avec nos responsables locaux qu'on avait confiés au Bambou. Et là, il faut remercier pour une fois la technologie. Hein. Viber, WhatsApp, Teams, tout ce que vous voulez, hein, Zoom. C'est incroyable pour maintenir des liens d'incarnation. En témoigne un exemple de dingue. Nos responsables philippins, Yann et Laure, ont réussi à mettre en place une visio avec 150 responsables de programmes philippins. Franchement, c'est dingue.
C'est incroyable. Quelle fierté aussi de faire partie de cette grande famille. De quoi Enfants du Mékong peut être fier cette année ?
C'est pas la fierté qui est le sentiment qui m'anime là, c'est plutôt l'émerveillement. Quadruple émerveillement. D'abord de l'Asie. Ils n'ont rien, sans doute comme beaucoup d'entre vous en France. Et pourtant, ils ne se plaignent pas. Ils avancent en regardant ce qu'ils ont encore et non pas ce qu'ils ont perdu. Ils ont toujours cette capacité à se réjouir des vivants et non des morts. Émerveillement de l'Asie, qui est une vraie leçon pour le monde. Émerveillement de nos parrains qui ont compris à quel point ce levier est prophétique. En ces temps difficiles, incroyable de voir à quel point le parrainage s'adapte à toutes les situations. On l'a vu dans les camps de réfugiés dans les années 80, on l'a vu avec le tsunami, on le voit en ce moment. Émerveillement de notre organisation, comme beaucoup d'autres organisations, qui est capable, en écoutant les besoins, de s'adapter aux appels du pauvre. Soit de reconstruire des maisons après un typhon en 2013, au moment du typhon Ayan. En ce moment, donner du riz à ceux qui n'ont plus rien, qui crèvent de faim, quoi. Et aussi d'être là fidèlement, en amitié, pour ceux qui en ont tant besoin. Quatrième, c'est émerveillement de notre capacité à innover et à créer du lien. Prends l'exemple de Nolwenn Tebambou à Manille, qui utilisait les faibles indemnités qu'on donne aux bambous pour mettre en place des kits alimentaires alors qu'elle était confinée. Elle a rompu le confinement pour aller distribuer de ses petits deniers. On ne lui avait pas demandé de le faire, elle le fait en plus. Vous voyez ? Exemple, je vous l'avais dit aussi avec nos 150 responsables de programmes philippins qui sont capables de se réunir autour d'une visio pour la première fois en 25 ans. La capacité c'est d'enfants de Mekong, c'est toujours être comme des enfants, avoir cette capacité d'émerveillement en tout temps et en tout lieu.
Incroyable, que de beaux exemples. Quels sont les enjeux pour Enfants de Mekong pour cette nouvelle année à venir ?
Trois enjeux. La première chose, d'abord, on s'est organisé pour gérer 100% de nos actions avec 20% de bambous en Asie. Donc ça, d'abord, on s'est adapté et je vous assure que ce soit dans la sécurité de l'argent distribué que dans l'écoute des besoins, je tiens à remercier les équipes, leur capacité d'adaptation. Trois enjeux. Le premier enjeu, c'est d'écouter ceux qui soufflent le plus. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous. Comme on est loin, quand quelqu'un va très mal, va-t-il vous dire qu'il va très mal ? Or, comme on est loin, on est capable d'aller chercher les besoins du terrain, mais comment allons-nous aller chercher les besoins des plus pauvres des plus pauvres ? Comment allons-nous écouter les sans-voix alors que nous sommes à 10 000 km ? Comment on va répondre à tous ces besoins ? Aux Philippines, je vous en ai parlé, en Birmanie, mais aussi dans tous nos pays d'action et aussi dans un autre pays, et je l'annonce officiellement, où nous sommes appelés au Timor occidental, pays le plus pauvre d'Asie du Sud, qui en a tant besoin. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de préparer le retour incarné en Asie. La deuxième, plusieurs choses, comment organiser le retour des missions pour répondre en termes de nutrition, en termes de reprise d'activité, qu'on appelle le livelihood, la reprise d'activité économique pour les familles de filleuls. Comment on peut remobiliser les jeunes pour aller à l'école face à un décrochage scolaire mondial énorme. Comment on peut aider des jeunes à lutter contre les addictions des écrans qui étaient terribles depuis 10 mois. Et puis en France, pour nous, c'est de transmettre la résilience de l'Asie et engager les jeunes. Engager les jeunes pour la France, mais aussi pour l'Asie. On vous en parle bientôt. On a pas mal de projets dans les tuyaux.
Super. Dernière chose, comment est-ce que dans ce contexte particulier, on peut demeurer dans l'espérance ?
Il faut partir en Asie. Dès qu'on pourra partir en Asie, allez-y. Mais je reprends cette phrase que j'ai entendue qui dit que plus la nuit est obscure, plus les étoiles brillent. C'est à nous de choisir notre camp. Nous, à la rue de la Comète, pardon, c'est l'adresse du siège d'Enfants de Mékong, on essaie de choisir notre camp du côté des étoiles. Et ça, on y arrive grâce à vous. Donc, merci.
Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir fait cet état des lieux et puis ces paroles pleines d'espérance pour Enfants de Mékong pour 2021. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis merci pour votre soutien et votre fidélité.